Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale ou qui tente de le faire. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis bien longtemps, dans sa formule grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons l'historien, l'économiste, le professeur, le spécialiste des matières premières, tout cela à la fois, Philippe Chalmin. Bonjour Philippe Chalmin.
Bonjour.
Philippe Chalmin, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes en effet le premier grand invité RFI Jeune Afrique depuis plus d'un an. Ce partenariat entre nos deux médias avait été interrompu en raison des confinements et des jauges très limitées dans nos studios. Les choses reviennent peu à peu à la normale et votre présence en est la manifestation. Mais revenons à vous, Philippe Chalmin. Quelques mots sur votre parcours avec Julien Clémenceau.
Philippe Chalmin, vous êtes historien. Vous avez fait il y a longtemps déjà votre thèse sur l'industrie sucrière. Vous avez été enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, puis à l'Université Paris-Dauphine. Et il y a près de 40 ans, vous avez lancé Cyclope, un rapport consacré aux matières premières. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet univers? Qu'est-ce qui explique que vous y consacriez une partie importante de votre vie? Très importante.
Oui, ça peut paraître d'ailleurs assez curieux de voir que on continue à se passionner 40 ans et même un peu plus puisque j'ai démarré sur le sucre dans les années 70. Continuer à se passionner pour les matières premières. Bah, tout simplement parce que les matières premières, j'ai toujours tendance à dire que c'est la partie émergée de toutes les tensions géopolitiques, géoéconomiques de la planète. Lorsqu'un prix bouge, c'est que quelque part dans le monde, l'offre ou la demande sont concernées. C'est que quelque part dans le monde, il y a des guerres, des révolutions, des coups d'État, dans le côté positif, de nouvelles technologies, de nouvelles formes de consommation, etc. Et donc, suivre, comme je le fais maintenant, le prix du pétrole, le prix du blé, le prix du cuivre, le prix du cacao, c'est, si on veut tout comprendre, c'est essayer de comprendre le monde. Et pour un historien, c'est finalement une clé de lecture tout à fait fascinante. Ce d'autant plus que, je vous le rappelle, les matières premières ont joué dans l'histoire et dans l'histoire ancienne même, un rôle tout à fait important. On va peut-être parler aujourd'hui de l'étain, mais lorsque César envahit l'Angleterre, c'était notamment pour mettre la main sur l'étain de Cornouailles.
Jules César, l'empereur romain. Donc il y a quelques années de cela, Philippe Chalmin, vous nous parlez des grandes tensions historiques que révèlent les matières premières, mais dans ce que vous venez de dire, les individus sont absents.
Non, les individus ne sont pas absents, parce que justement, il a fallu qu'il y ait des gens qui quittent leur pays pour aller défricher, pour aller chercher des minerais, pour aller forer des puits, et puis... Et c'est quelque chose que vous connaissez bien, cher Jean-Pierre, car me semble-t-il, vous écrivez un excellent petit ouvrage à leur sujet. Et il faut aussi des gens qui soient capables d'assurer le commerce. Et donc, ce fut le temps des compagnies des Indes, ce fut le temps aussi, et c'est encore le temps, de ces grands négociants internationaux qui ne sont pas uniquement des entreprises impersonnelles, ce sont aussi des hommes et bien souvent aussi des aventuriers.
Alors Philippe Chalmin, au cours de cette émission avec Julien Clémenceau, nous allons parler de ces multiples matières premières, de celles en particulier qui contribuent à construire ou malheureusement parfois à détruire les économies africaines. Nous parlerons par exemple des minerais congolais, du coton burkinabé, du cacao ivoirien et de bien d'autres avec Julien Clémenceau et Philippe Chalmin, notre grand invité. Question de Julien Clémenceau.
Après une année 2020 marquée par la pandémie et la récession mondiale qu'elle a entraînée, 2021 est, elle, synonyme de rebond généralisé. Plus de 8% de croissance prévue cette année en Chine, 7% aux États-Unis, 4% dans l'Union européenne. Ce redémarrage en trombe des économies explique-t-il, Philippe Chalmin, la hausse quasi généralisée des cours des matières premières?
Oui, Incontestablement, et je ne pouvais pas rêver pour la sortie du 35e rapport Cyclope, une conjoncture pareille où qu'il s'agisse du cuivre, de l'étain, du minerai de fer, mais aussi du blé, du soja, du bois, du fret maritime, pratiquement tous les marchés sont à des niveaux et à des sommets. Ceci s'explique essentiellement par ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une sorte d'asymétrie entre la demande et l'offre. Nous avons eu la pandémie, la crise économique la plus forte que le monde ait connue depuis l'entre-deux-guerres, et donc on a eu une panne de consommation, et on a assisté, sauf peut-être pour les produits agricoles, à un effondrement des prix il y a exactement un an. Souvenez-vous, le pétrole avait atteint pendant quelques heures, c'est anecdotique mais symbolique aussi, avait atteint un niveau négatif. Et puis, ce dont nous n'avons peut-être pas beaucoup compris conscience, en particulier en Europe, la reprise est intervenue. Elle est intervenue beaucoup plus vite. Elle intervient pratiquement dès le début de l'été en Chine. Et grâce à tous les plans Trump, Biden, etc., dès l'automne aux États-Unis. Le résultat, nous avons eu un boom de la demande, notamment en provenance de Chine. Et ce boom de la demande, il a rencontré une offre qui est restée quand même encore largement contrainte par le Covid et puis aussi par toutes les mesures qui avaient été prises par des mineurs, des pétroliers, etc. pour réduire leur capacité de production.
Le résultat, c'est
une hausse des prix. Le résultat, c'est que nous avons sur le court terme une demande beaucoup, beaucoup plus forte que l'offre et donc nous avons assisté à une flambée des prix. Il y a un produit qui en est un peu un symbole, qui n'intéresserait peut-être pas directement nos auditeurs, c'est le bois. Le prix du bois.
Il y a beaucoup de bois tropicaux.
Oui, mais là je parle de ce qu'on appelle le bois d'œuvre, le bois de construction aux États-Unis. 80% des maisons aux États-Unis sont faites en bois. Le prix du bois a été multiplié par 4 en un an, tout simplement parce que grâce à ces plans Trump, Biden, etc., on a eu une flambée et une augmentation considérable des mises en chantier de logements à un moment où les capacités forestières restaient limitées. On est passé de 400 à 1600 dollars les 2,3 mètres cubes sur le marché américain. Et le résultat, les États-Unis sont venus dans le reste du monde pour importer du bois. Ils en ont importé aussi du bois tropical, mais surtout du bois des pays tempérés, etc. C'est un exemple, mais on va le retrouver pour le cuivre, on va le retrouver pour l'étain, on va le retrouver pour le cobalt. Rajoutons à cela d'ailleurs un énorme appétit chinois, car il faut pas oublier.
On reviendra à la Chine, Philippe Chama, mais laissez-nous vous interrompre et nous vous poser quelques questions parce qu'on sent là le professeur qui est parti pour
voilà,
de longues explications.
Qui fait des tunnels.
Julien Clémenceau.
Philippe Chalmin, concernant cette reprise aussi rapide, aussi dynamique, est-ce qu'il n'y avait pas quand même dans le monde des stocks dont les propriétaires avaient besoin de les vendre et qu'est-ce qui explique que les prix soient tout de suite repartis à la hausse? Est-ce qu'il y a l'effet de spéculateurs?
Alors, il y a eu... attendez, de toute façon, quand on parle matière première, on parle spéculation. Je vous rappelle, parce que spéculation, nous, on se dit c'est mal, c'est méchant, etc. Nous, Français, et nous catholiques romains, je dirais encore plus, peut-être. N'oubliez pas que nous sommes dans un univers qui est marqué par une profonde instabilité. Ma seule certitude, c'est que demain, le prix sera différent d'aujourd'hui. Il faut donc que j'anticipe ce que sera demain, et anticiper, c'est une forme de spéculer.
Alors, ces stocks, ils existaient? Ils ont été mangés tout de suite par les usines?
Il y avait des stocks, mais qui n'étaient pas si considérables que cela. Et d'ailleurs, les produits pour lesquels il y avait quand même des stocks relativement importants, je pense à un produit comme le cobalt, par exemple, pour lequel on avait arrêté même un certain nombre de mines. C'est vrai que le cobalt a été moins performant que d'autres métaux, parce que justement, on a bouffé les stocks. Il en a été de même, par exemple, sur le marché du maïs. Mais là, on arrive actuellement à des situations, souvent en fin de campagne agricole, qui sont extrêmement tendues.
Alors, justement, vous parlez du cobalt, Philippe Chalmin, on y reviendra tout à l'heure, mais on va rester sur les produits agricoles, parce que la FAO vient d'annoncer que les prix alimentaires étaient au plus haut depuis 10 ans, qu'ils avaient augmenté brutalement quasiment de 40%. Pourquoi cette hausse? Est-ce qu'elle s'explique par ce que vous signaliez à l'instant, le redémarrage des économies?
Sur le champ agricole et en particulier alimentaire, c'est moins le cas. D'abord parce que les produits agricoles avaient été moins touchés par la crise l'année dernière. Je vous rappelle que pendant la pandémie, nous nous sommes quand même nourris. Donc, il n'y a pas eu de choc de la demande. Sur les produits agricoles, il y a deux phénomènes qui ont joué. Un premier, un certain nombre d'accidents climatiques relativement limités. On a parlé d'un phénomène climatique qui s'appelle la Niña, par exemple. Ça a joué un peu. Et puis surtout, ce dont je parlais tout à l'heure, l'appétit chinois. La Chine est confrontée à une autre pandémie qu'elle n'arrive pas à maîtriser, qui est la peste porcine africaine, qui a obligé les Chinois à pratiquement liquider la moitié de leur cheptel porcin. Or, en Chine, pour ceux qui y sont allés, le porc, c'est un aliment de base extrêmement important. Le résultat, la Chine a importé énormément de tonnage de viande porcine, mais aussi de viande bovine et même un peu de volaille. Et puis, ils ont changé leur modèle et ils sont devenus, ça c'est la grande nouveauté de l'année, le premier importateur mondial de céréales. Ce qui, jusque-là, n'avait jamais été le cas. Si je rajoute les céréales, le soja, pensez qu'ils importent cette année, sur la campagne 2020-2021, ils ont dépassé les 150 millions de tonnes importées, ce qui ne s'était jamais passé. Et c'est cette demande chinoise qui explique les tensions qu'on a connues sur des produits comme le maïs, comme le soja, comme le blé, l'ensemble des oléagineux, l'huile de palme même.
Est-ce que cette irruption de la Chine à ce niveau d'importance dans les pays importateurs de céréales peut avoir des conséquences géopolitiques? Est-ce que c'est un phénomène majeur selon vous, Philippe Chalmin?
Oui, alors c'est une très bonne question, nous nous demandons tous, parce que nous avons sous-titré cette année le rapport Cyclope d'un vers de Corneille bien connu dans la tirade du Cid, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. S'il y a quelque chose qui est obscur pour nous aujourd'hui, c'est la rationalité agricole et alimentaire chinoise. Et il est clair que nous nous interrogeons de savoir si la campagne 2020-2021 sera exceptionnelle et puis la Chine va retomber à un niveau plus normal d'importation ou si elle va rester sur le trend actuel. Et un certain nombre de prévisions permettent de penser que ça va être le cas. Et c'est vrai que là, je retombe dans la dimension géopolitique, car d'où viennent les céréales qu'importe la Chine et le soja? Elles viennent en particulier des États-Unis. Il y a un an, souvenez-vous, il y avait eu cet accord de phase 1 entre la Chine et les États-Unis, dans lequel les Chinois s'engageaient à importer plus. Sur le plan agricole, ils l'ont fait. Mais par exemple, les Chinois sont aussi de gros importateurs d'orge. Il ne vous a pas échappé que les relations entre la Chine et l'Australie sont relativement tendues. Actuellement, ils n'importent plus d'orge australienne, comme ils n'importent plus non plus d'ailleurs de gaz naturel, de charbon et autre chose.
Philippe Chalmin, est-ce que cette hausse des prix alimentaires peut avoir un impact sur les pays pauvres? Est-ce que cela peut provoquer une nouvelle crise alimentaire comme celle qu'on avait connue il y a 10-12 ans?
Oui et non. La plupart des gouvernements des pays importateurs ont l'œil fixé sur les prix alimentaires, que bien souvent d'ailleurs ils contrôlent, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de nouvelles émeutes de la faim. Ce qui est clair par contre, c'est que cela va augmenter leur facture alimentaire. C'est le cas par exemple d'un pays comme l'Égypte. Il faut se rendre compte que vous payez aujourd'hui votre tonne de blé à l'importation presque une centaine de dollars de plus que l'année dernière. C'est quand même important. Dans des pays où c'est moins contrôlé, les prix alimentaires, par exemple au Nigeria, en un an, ont augmenté de 24%. Donc c'est relativement important quand même. Et de là à ce que cela déclenche des troubles politiques, des émeutes de la faim, je ne le pense pas parce que la plupart des gouvernements vont avoir quand même l'œil sur leurs indices de prix alimentaires.
Continuons à parler agriculture avec Julien Clémenceau.
Au Burkina Faso, la campagne cotonnière 2020-2021 s'est achevée. Et les cotonculteurs burkinabés ont produit cette année 492 000 tonnes de coton graines. Suite à une mauvaise pluviométrie, seulement 80% du plan de campagne a été réalisé. Cette production a rapporté aux producteurs environ 51 milliards de francs CFA, soit 820 millions d'euros. Ali Compaoré est le directeur général de la société cotonnière du Gourma et secrétaire à l'information de l'association interprofessionnelle du coton au Burkina. Il répond aux questions de Yaya Boudani.
C'est une campagne qui nous a permis de pouvoir mobiliser au total 418 000 producteurs. Donc ces 418 000 producteurs ont produit donc au titre de cette campagne agricole 492 000 tonnes de coton, coton conventionnel et coton biologique y compris. Et nous sommes arrivés à un rendement au champ de 882 kg à l'hectare. Alors en termes d'accroissement de la production, nous avons noté donc 7% comparé à la campagne devancière, celle de 2019-2020, et 11% en termes d'accroissement donc de la productivité au champ.
Combien cela a rapporté au cotonculteur burkinabé, cette production?
La quantité de coton collecté, on avait 70 milliards de francs CFA assis sur ce coton-là. Donc ça représente donc les crédits donc des intrants agricoles que les producteurs agricoles ont contractés auprès donc des trois sociétés cotonnières. Alors au terme donc de la campagne, donc de la commercialisation donc de ces 492 000 tonnes de coton graines, nous avons pu reverser environ 51 milliards donc de francs CFA à l'ensemble donc des 418 000 producteurs qui se sont engagés.
Vous avez parlé tantôt des changements climatiques. Il y a aussi la question sécuritaire qui a fortement joué sur la production.
En plus donc des effets donc climatiques, il y a eu également la situation sécuritaire qui a été beaucoup, en tout cas ressentie au niveau donc de la partie orientale du pays. Je veux parler de l'Est où nous avons perdu pratiquement en 3 ans et près de 60% donc des surfaces cotonnières. Et en termes de production, nous sommes passés pratiquement de 115 000 tonnes aujourd'hui à 36 000 tonnes de coton collecté dans cette zone.
Julien Clemenceau, c'était donc une interview d'Ali Compaoré, un cotonnier burkinabé, par Yaya Boudani. Julien Clemenceau.
Philippe Chelmin, l'insécurité, est-ce que c'est un facteur qui pèse beaucoup sur les productions mondiales de produits agricoles?
Oui et non, le facteur climatique est quand même en matière agricole de loin le plus important, même si des éléments politiques peuvent jouer, par exemple tous les problèmes liés aux grèves de transporteurs au Brésil, liés, alors c'est pas de l'insécurité, mais c'est l'instabilité politique brésilienne, par exemple, ça peut jouer. Dans le cas du coton, ce qui est bon dans le cas du Burkina, c'est que non seulement, bon, ils ont fait une belle campagne apparemment, malgré les problèmes d'insécurité dans l'est du pays, mais ils ont aussi, ce qui n'a pas été dit, bénéficié de prix tout à fait rémunérateurs, dans la mesure où le coton a lui aussi profité, comme beaucoup de matières premières agricoles, de cette reprise de la consommation mondiale. Et ajoutons sur le coton, et ce qui est une chance d'ailleurs pour le coton africain, c'est que, je reviens à la géopolitique, il ne vous a peut-être pas échappé que les États-Unis avaient mis en place des sanctions vis-à-vis des sociétés qui utilisent du coton en provenance du Xinjiang, à propos de l'affaire des Ouïghours. Et donc, ceci a posé un problème, puisque ça veut dire qu'un certain nombre de produits textiles fabriqués à base de coton chinois ne pourraient plus porter des labels célèbres que nous retrouvons dans les boutiques. Le résultat, la demande s'est déplacée vers des cotons non chinois, et je trouve, et j'ai toujours dit d'ailleurs, y compris à l'encontre de certains qui critiquaient le coton comme une culture de rente, etc., c'est totalement faux. Le coton joue un rôle tout à fait fondamental. On a entendu dans l'interview le fait que les sociétés cotonnières jouent un rôle fondamental dans le préfinancement de la campagne, l'utilisation des semences, des intrants, et ça joue un rôle aussi pour les cultures vivrières qui entourent les champs de coton. Et le coton, vous l'avez entendu, 416 000 cotonculteurs, on est là sur des structures de petites exploitations. Donc ça montre bien d'ailleurs que l'opposition d'un certain nombre d'associations disant « il faut arrêter les cultures d'exportation », etc., c'est totalement faux. Je dirais que le coton en Afrique de l'Ouest, c'est une des grandes réussites de la coopération franco-africaine.
Mais pourtant, sur le plan du coton, il n'y a quasiment plus de filature en Afrique de l'Ouest, il n'y a plus cette partie industrielle.
Écoutez, ça c'est un vrai problème et un vrai débat. Est-ce qu'il y a de l'argent, et je dirais de la valeur à gagner, en allant plus aval dans les filières? Je n'en suis pas du tout sûr. À la limite, la vraie valeur ajoutée, c'est l'industrie du vêtement. C'est ce que fait le Bangladesh aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une logique à intégrer, vous êtes producteur de coton, à intégrer jusqu'au stade du filet, sachant que le filet est lui-même considéré comme une matière première, donc avec des prix instables, donc avec une valeur ajoutée instable? Ça n'est absolument pas certain. Je pense que un pays producteur de coton, son intérêt, c'est d'exporter le mieux possible sa matière première, quitte à réutiliser, bien entendu, la rente liée aux taxes à l'exportation existantes vers d'autres secteurs plus industrialisants. Les États-Unis sont, de mémoire, l'un des premiers exportateurs mondiaux de coton brut. Et le raisonnement que je fais là, je l'ai exactement aussi sur le cacao. Je ne suis pas du tout sûr que l'intégration vers la transformation et le broyage de la fève soit quelque chose de très intéressant. Et je le fais aussi dans le domaine minier. Quand j'entends que la Guinée veut, avec son minerai de fer, produire de l'acier, nous sommes dans le délire le plus absolu.
Philippe Chalmin, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous vous interrogeons avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique à l'occasion de la parution de l'édition 2021 de votre annuaire des matières premières Cyclope. Vous venez de parler du cacao, Philippe Chalmin. La semaine dernière, précisément, cette émission était consacrée à la production de cacao en Côte d'Ivoire. Le constat qui a été dressé par les intervenants, c'est que sur les 40 dernières années, le prix payé aux producteurs avait été divisé par 3, et que les forêts ivoiriennes avaient été dévastées par la production de cacao. Comment y remédier ?
La Côte d'Ivoire a eu pendant longtemps un système que nombre de gens critiquaient, mais je n'en faisais pas partie, qui était un système de prix garanti aux producteurs dans le cadre de ce que l'on appelait la caisse de stabilisation et de péréquation des prix.
La
CESTAB. Et la CESTAB, qui était moins efficiente que l'organisme correspondant au Ghana, le Cocoa Board, la CESTAB a quand même permis, et sous la houlette du président Houphouët Boigny, qui se disait toujours « je suis le premier planteur de cacao ivoirien », eh bien, la CESTAB avait permis une très grande stabilité des prix. Vous savez ce qui s'est passé, on a démantelé la CESTAB, on a inventé un système dont je qualifierais que la transparence n'est pas la qualité principale, on a introduit finalement effectivement une certaine forme d'instabilité au niveau du producteur, même si de manière plus récente on est revenu à des sortes de prix garantis, y compris en essayant de les gérer de manière un peu harmonieuse entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour éviter les fuites d'un pays vers l'autre dans un sens ou dans l'autre.
Donc il faut revenir à la CESTAB.
Écoutez, les Ghanéens n'ont pas abandonné leur système du Cocoa Board qui a toujours été d'une très grande efficacité. Je dirais que pour un produit aussi important que le cacao, avec ses centaines de milliers de petits planteurs là aussi, il est clair que la stabilité du prix au niveau du planteur devrait être une garantie, et le système d'une CESTAB bien gérée me paraîtrait plus efficient que les mécaniques un peu complexes, et je le disais particulièrement opaques, que nous connaissons aujourd'hui, ces systèmes ne me paraissent pas d'une efficience extraordinaire. Alors il se trouve par ailleurs que, malheureusement, de tous les produits qu'on a cités ce matin, il y en a malheureusement un qui a échappé à la flambée des prix, c'est malheureusement le cacao. Et ça, on se trouve dans une situation d'équilibre, voire d'excédent. On n'a pas eu de boom de la consommation extraordinaire. Alors, on voit une tendance que l'on retrouve d'ailleurs sur nombre de secteurs agricoles dans les pays développés, qui est une tendance à la certification, qui est une tendance à la traçabilité, mais qui ne touche que quelques niches. Et malheureusement, le cacao, matière première de base, est probablement aujourd'hui l'une des matières premières qui a le moins profité de des tensions sur les marchés que l'on a connues ces derniers mois.
Philippe Chalmin, vous le rappeliez un petit peu plus tôt, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont tenté de s'entendre, et à eux deux, ils représentent plus de 60% du cacao mondial, et ils ont tenté de s'entendre, de travailler ensemble pour peser sur les marchés et obtenir de meilleurs prix pour leurs producteurs. Et ça ne marche pas. Est-ce que vous croyez, vous, à la mise en place d'un cartel des producteurs qui puisse influencer les prix et obtenir ce que faisait la CESTAF, c'est-à-dire un prix minimum garanti aux cacaoculteurs?
Ce sont deux choses différentes. La CESTAF, ou un organisme équivalent, peut mettre en place, et je crois qu'il le fait d'ailleurs un peu actuellement, un prix garanti aux producteurs. Et donc lisser les tendances du marché mondial, éviter peut-être aussi qu'il y ait trop de différence entre le prix bord champ et le prix à l'exportation, sachant que nous avons quand même un certain nombre d'intermédiaires qui jouent un rôle qui n'est pas toujours d'une clarté absolue, je le répète. Sur la deuxième question, peut-on imaginer un cartel du cacao? Malheureusement, la réponse est non, parce que d'abord, le temps des cartels est largement révolu, et un cartel, il ne peut fonctionner que sur un produit qui soit totalement indispensable aux consommateurs, dont ils ne puissent pas se passer. C'était le modèle de l'OPEP en 1974. On voit aujourd'hui les difficultés qu'a l'OPEP, même élargie à la Russie, de bien contrôler le marché. Et vous voyez les efforts auxquels ils se livrent. Donc je ne crois pas à un cartel du cacao, tout simplement parce que le cacao n'est pas indispensable, que...
Sa consommation augmente, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent à lui.
On le dit, les nouveaux marchés, notamment asiatiques, mettent quand même énormément de temps à s'ouvrir. Et puis je vous rappelle que malheureusement, la définition de ce que nous appelons le chocolat peut être différente d'un pays à un autre, que en particulier la matière grasse, c'est-à-dire le beurre, peut être remplacée dans nombre de produits qu'on appelle chocolat, y compris chez nos amis belges, par de la lécithine de soja. Je vous rappelle que les pralines belges de quelques marques fort célèbres ne pourraient s'appeler chocolat en France, tout simplement parce que leur taux de cacao est inférieur. J'entends bien qu'il y a quelques amateurs de cacao qui ne mangent plus que du chocolat à 70 ou 80% de cacao. Alors là, il y a une notion de cru presque, et il y a un certain nombre de niches. C'est bien les niches, mais il faut pas oublier le cacao de base. Et de ce côté-là, un pays comme la Côte d'Ivoire a pris pas mal de retard, y compris dans le développement de ce qu'on pourrait appeler des crus.
Philippe Chalmin, on parle beaucoup de l'Afrique, là, du cacao, du coton burkinabé, mais est-ce que cela reflète la place que l'Afrique occupe dans Cyclope? Est-ce que dans ce pavé annuel que vous publiez, l'Afrique est très présente?
J'ai une phrase qui avait été même, je crois, reprise à un sujet au baccalauréat, qui était de dire que les matières premières étaient importantes pour l'Afrique et que malheureusement, l'Afrique n'était plus très importante pour les matières premières.
Oui.
Eh ben, les matières premières sont importantes pour l'Afrique parce que énormément de pays africains continuent à être totalement dépendants dans leurs recettes à l'exportation des matières premières. Par contre, l'Afrique, par son instabilité, n'a pas attiré finalement, malgré ses ressources, n'a pas attiré de véritable développement sur les matières premières. Alors, quels sont les produits pour lesquels l'Afrique est un peu incontournable? Le cacao, nous venons d'en parler. Le cobalt. On va en reparler. Les phosphates, en ce qui concerne le Maroc. Mais c'est à peu près tout. On peut citer la bauxite pour la Guinée. Mais il faut reconnaître le fait que dans nombre de pays, et c'est peut-être là un des drames de l'Afrique, c'est que sa dépendance vis-à-vis des matières premières s'est malheureusement traduite par ce que j'appelle toujours, et alors là, c'est l'historien qui ressort, la malédiction des matières premières. Très rare, peut-être la Namibie a-t-elle bien géré excusez-moi, pas la Namibie, lui, le Botswana a bien géré sa rente du diamant. Mais pour le reste, les matières premières ont correspondu à une vraie malédiction pour les pays producteurs. Regardez le Nigeria. Le Nigeria était un exportateur de produits agricoles. Il était même un des grands producteurs mondiaux d'huile de palme, par exemple. Il était un exportateur de produits agricoles avant que n'arrive le pétrole. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que le pétrole a apporté quelque bonheur aux Nigérians moyens? Regardez l'Angola. Regardez malheureusement la République, ouvrez les guillemets, démocratique, fermez les guillemets, du Congo. Regardez l'Algérie.
Alors justement, la RDC, la République démocratique du Congo, on en parle avec Julien Clémenceau.
Le cuivre et le cobalt sont deux minerais produits dans la région du Katanga, au sud de la RDC. En 2020, le pays a produit 1,2 million de tonnes de cuivre et près de 120 000 tonnes de cobalt. Comment les deux métaux se comportent aujourd'hui sur le marché international et local? Notre correspondante Denise Maheo a interrogé Emmanuel Umpula, directeur de l'ONG African Resources Watch, AfriWatch, une organisation basée à Lubumbashi qui milite pour la gestion efficace des ressources naturelles de la RDC. Écoutez les réponses.
Par rapport au cuivre, les prix ont sensiblement augmenté parce que nous sommes partis de 4 500 et plus de dollars à presque 10 000 dollars la tonne. Là, c'est 2021. Nous sommes arrivés à ces prix-là. Donc, on peut dire que c'est un bon indicateur pour les gens qui font le business et surtout les entreprises qui produisent des cuivres au Congo, et aussi pour la RDC. Et vous savez que la production de la RDC du cuivre est autour de 1 500 000 tonnes. C'est énorme si on voit l'embellie des cours des métaux, donc ça se porte bien. Alors pour les cobalt, là aussi, les prix sont en train de monter petit à petit, entre 43 000 et 45 000 dollars la tonne. Contrairement, il y a quelques temps, les prix avaient baissé jusqu'à atteindre 30 000. C'était une baisse sensible lorsqu'on compare ces prix au cours de la période de 2019. Nous avions atteint des prix records jusqu'à arriver à 95 000 dollars la tonne. Mais aujourd'hui, c'est en train de monter.
Alors, quelles sont les raisons de cette embellie de prix du cobalt et du cuivre sur le marché international?
C'est la demande. Vous savez que, par exemple, par rapport au cobalt, nous sommes pendant une période de transition énergétique et nous avons des grands secteurs, notamment le secteur de l'électronique avec tout ce qui est smartphone, mais aussi nous avons le secteur de l'automobile. Je pense que la demande est en train d'augmenter. Mais aussi, on peut citer la diminution de la production, notamment Glencore, sa mine de Mutanda, qui produisait une grande partie du cobalt, est fermée. Donc, tous ces éléments peuvent expliquer pourquoi les prix augmentent progressivement.
En RDC, on est à quel niveau de production du cobalt?
Oui, la production, nous l'avions d'abord doublée. Nous étions passés de presque 70 000 tonnes de cobalt à presque 120 000.
Alors, il y a l'embellie sur le marché international, mais quel est l'impact sur le marché local, notamment pour le secteur artisanal?
Et c'est une question qui revient très souvent parce qu'il y a des problèmes de prix qui ne sont pas respectés par les acheteurs. Et ça varie et je n'ai pas de chiffres exacts, mais lorsqu'on essaie de faire les calculs, on est entre 300 et 500 dollars la tonne. Même si c'est du brut, je dirais que le prix est très bas. Mais aussi, n'oubliez pas que lorsqu'on amène ces bruts, là-dedans, il y a plusieurs minéraux. Notamment, vous trouvez le cuivre et le cobalt. Et à chaque fois, les acheteurs achètent un seul minéraux. Et donc, ça constitue aussi une perte énorme pour le creuseur.
C'était donc Emmanuel Umpula, interrogé par notre correspondante à Lubumbashi, Denise Maheo. Philippe Chalmin, le cobalt, le cuivre, c'est une richesse potentielle énorme pour cette région, pour ce pays?
C'est une richesse potentielle, théorique. Ça a été dans l'histoire une malédiction. On disait toujours que, à l'époque, le Congo belge, puis le Zaïre, était un scandale géologique. Ils auraient dû donc, en toute logique, connaître un développement économique.
Un scandale géologique parce que il y avait.
Parce qu'on a cité le cuivre, les cobalt, mais il faudrait rajouter le coltan, il faudrait rajouter les diamants, etc. L'or. L'étain aussi. Et la RDC devient un producteur important d'étain. Donc, ils ont un potentiel considérable. Ce potentiel a attiré tous les intérêts, a provoqué des guerres civiles, a provoqué quand même, appelons un chat, une corruption scandaleuse. Il faut rappeler que quand même, à une époque, le cuivre et le cobalt, c'était l'ex-union minière du Haut-Katanga, devenue l'AGCAMINE. L'AGCAMINE a été la bourse privée du président Mobutu à la grande époque. Donc, il faut être conscient de tout cela. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cuivre comme le cobalt bénéficie, et la personne qui a été interviewée l'a bien dit, d'une demande de ce que nous appelons maintenant un peu les métaux électriques, puisque nous allons nous lancer dans la transition énergétique, nous allons utiliser des véhicules électriques, ces véhicules électriques auront des batteries, dans ces batteries, la génération actuelle de batteries, c'est lithium-cobalt. Et donc, on a eu, dès qu'on a su un petit peu qu'il allait y avoir développement de ces batteries, on avait eu en 2018-2019 une véritable flambée sur les prix du lithium et du cobalt. Comme les anticipations de développement des voitures électriques ont été quand même un petit peu optimiste par rapport à la réalité, le prix du cobalt, tout comme celui du lithium, s'était relativement retombé. Et là, avec des effets de la pandémie, finalement, ça aurait été une prise de conscience environnementale, etc. Donc une accélération de la transition énergétique. Et donc, on a eu un intérêt nouveau pour le cobalt. Alors sur le marché du cobalt, effectivement, Glencore, qui est l'un des premiers acteurs mondiaux en la matière, a fermé sa grande mine de Mutanda, tellement justement les stocks à l'époque étaient importants. Il prévoit, si j'ai bien compris, de la réouvrir vers la fin de cette année ou le début de l'année prochaine.
Philippe Chalmin, est-ce que sur ces métaux particuliers, on est parti pour ce qu'on pourrait appeler un super cycle, c'est-à-dire une hausse continue et prolongée des cours ?
Je déteste ce mot de super cycle et pour moi, il n'a aucun sens. On a eu de très fortes tensions, ce que vous appelleriez éventuellement un super cycle, sur la période 2007-2013. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de rattrapage après la pandémie. Néanmoins, il y a quand même une catégorie de produits, justement ces métaux liés à la transition énergétique, sur lesquels on peut être confronté à une demande plus importante qui, à mon sens, ne se matérialisera pas quand même vraiment avant le début de la prochaine décennie. Mais incontestablement, le cuivre en a profité. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir que les fabricants de batteries pour véhicules électriques, modèle Tesla par exemple, ce qui les embête, c'est d'avoir du cobalt venant de RDC. Cela pour deux raisons. L'instabilité géopolitique, qui risque quand même de poser des problèmes d'approvisionnement. Deuxièmement, c'est aussi un produit qui ne correspond pas exactement aux standards de responsabilité sociétale des entreprises. Je veux parler du travail des enfants. Troisièmement aussi, c'est que aujourd'hui, ce sont les Chinois qui ont mis la main sur le Katanga. Plus de 50% de la production de cobalt au Katanga, en RDC, est contrôlée par des entreprises chinoises qui, on le sait, ne sont pas en général très regardantes sur les conditions de travail. Le résultat, c'est que nous voyons arriver sur le marché une nouvelle génération de batteries. Il y a toujours du lithium, mais on remplace et on commence à remplacer de plus en plus le cobalt par du nickel. Mais
Philippe Chalmin, ça veut dire que ces entreprises qui sont attachées à leur réputation, qui sont puissantes, dont la capitalisation est énorme en bourse, finalement, elles préfèrent trouver un plan B plutôt que de peser sur les conditions d'exploitation, d'extraction de ces ressources et faire en sorte que ce soit plus éthique.
Je dirais que dans le cas, alors je peux comprendre leur réaction de se dire que dans le cas de la RDC, la cause est quand même légèrement désespérée. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, à l'exception de Glencore, la plupart des mineurs occidentaux, y compris d'ailleurs les Américains, se sont dégagés de la RDC. Et les Chinois ont pris leur place. Et on sait que les préoccupations de RSE dans les entreprises chinoises sont proches de zéro.
On parlait tout à l'heure aussi de la corruption qui est malheureusement souvent liée aux industries extractives. Il y a une initiative qui s'appelle LITI, une initiative pour la transparence. Est-ce que ça permet des avancées dans ce domaine ?
Oui, incontestablement, et cela pour les très grands mineurs. Mais il n'y a pas que des très grands mineurs. On sait très bien que dans l'industrie minière, on a une répartition des rôles. Les chercheurs, les entreprises qui font de l'exploration, etc., c'est ce qu'on appelle les juniors. Souvent entreprises canadiennes d'ailleurs, il y a pas mal de Russes aussi. Ces gens-là passent quand même en dessous du niveau des radars. Et c'est lorsqu'ils ont identifié un gisement prometteur que l'on va avoir éventuellement la revente du gisement à un major. Mais on voit bien que même dans ce cas-là, la transparence n'est pas totale. On a quand même une affaire en Afrique qui a défrayé la chronique. C'est celle du gisement de fer de Simandou en Guinée, qui a donné lieu quand même aux pires turpitudes. Et finalement, je pense qu'un jour Simandou se fera. Je suis pas totalement sûr d'ailleurs que la Guinée en tant que tel en profitera vraiment, mais on a vu à l'œuvre des intermédiaires, de la corruption, d'ailleurs Simandou, touchant les plus grandes entreprises de la planète.
Simandou, c'est le plus grand gisement de fer au monde ?
Non. C'est une bonne question. Je pense que c'est un des plus grands gisements potentiels au monde. Les très grands gisements, les grands producteurs de fer aujourd'hui sur la planète, c'est l'Australie et le Brésil.
Philippe Chalmin, vous nous parliez pétrole tout à l'heure, vous nous disiez à quel point la production pétrolière, les exploitations pétrolières avaient dévasté l'économie du Nigeria et accessoirement celle de l'Angola. Le Sénégal et la Mauritanie devraient en 2023 toucher les premières royalties de l'exploitation de leurs importants gisements de gaz offshore au large de leurs côtes. Est-ce que, d'après vous, c'est une menace pour la stabilité politique, éthique de ces pays, le Sénégal en particulier, qui a une démocratie stable
Qui est même la seule, historiquement, depuis l'indépendance. Il n'y a que deux pays de leur indépendance, il n'y a que deux pays dans le monde qui n'ont pas connu de coup d'État, de renversement, etc. Ce sont l'Inde et le Sénégal. Ça fait un certain temps que je discute d'ailleurs avec mes amis sénégalais, et je pense que aujourd'hui, le phénomène de la malédiction des matières premières est quelque chose qui est bien connu, qui est bien anticipé. Et c'est vrai que, de toute façon, il faut bien se dire que l'arrivée d'une ressource tombée du ciel a quelque chose de déstabilisant sur une économie. Les économistes avaient étudié ça pour le développement de la production de gaz naturel aux Pays-Bas au début des années 60. Et ça avait plongé les Pays-Bas à l'époque en récession, ce qu'on appelait le mal néerlandais, la Dutch disease. Il est clair que si cette production de gaz naturel se concrétise, devient importante, bon, elle permettra dans un premier temps d'ailleurs de résoudre un certain nombre de problèmes d'alimentation en énergie pour une ville comme Dakar par exemple. Donc ça joue un rôle important et je pense que le gaz naturel est une chose importante. Ensuite, il faudra être capable de gérer la rente, de la mettre de côté, d'adopter probablement un modèle peut-être pas aussi rigide que le modèle norvégien avec son fonds pour les générations futures, mais de faire quelque chose qui y ressemble. On avait un exemple il y a quelques années. Le Tchad est un producteur de pétrole. Le problème du Tchad, vous regardez la géographie, il est quand même relativement enclavé au centre du continent, donc il fallait construire un oléoduc pour sortir le pétrole tchadien jusqu'à la côte. À l'époque, le pétrole valait pas très cher, et donc il y avait personne que ça intéressait pour financer cet oléoduc. Finalement, la Banque mondiale s'y est mis, en mettant en place des conditions relativement léonines et en disant ce pétrole et la rente de ce pétrole, vous ne devez pas l'utiliser pour des dépenses somptuaires, vous ne devez pas l'utiliser pour des dépenses militaires et vous devez en garder une partie pour les générations futures. Et comme la Banque mondiale n'avait pas très confiance dans les autorités tchadiennes, eh bien, ils avaient mis ce compte sur un blocage de compte dans une banque à New York. Bon, c'était l'époque où le pétrole valait 10 dollars le baril. Finalement, les Tchadiens et le gouvernement tchadien de l'époque avaient signé en se disant « bah ça vaut mieux que rien ». Le problème, c'est que quelques années plus tard, on était au-dessus de 100 dollars le baril. Le Tchad a pu rembourser sa dette, s'est indigné ensuite de l'action totalement néocoloniale de la Banque mondiale qui bloquait des ressources tchadiennes outre-mer et... Comme vous le savez, le Tchad a ensuite, pour des raisons de sécurité certainement, investi assez lourdement dans son armée, dont il a fait au passage une des plus efficaces de la région. Et entre-temps, eh bien, ce sont des pétroliers asiatiques, notamment chinois, qui ont pris le relais et qui ont rouvert en particulier la raffinerie de N'Djamena.
On approche de la fin de l'émission, Philippe Chalmin, une question de Julien Clémenceau.
Philippe Chalmin, vous étiez assez sévère tout à l'heure avec les projets d'industrialisation des pays africains, en tout cas d'intégration de la chaîne de valeur et de transformation. Il y a eu une entreprise qui a assez bien réussi, c'est l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, au Maroc. Est-ce que c'est un contre-exemple à votre démonstration ?
L'OCP, alors justement, c'est un excellent contre-exemple. D'abord parce que l'OCP a remarquablement, et au-delà d'ailleurs le Maroc, pendant longtemps, l'OCP a été un peu la vache à lait du gouvernement marocain. Sous un nouveau gouvernement depuis maintenant 20 ou 25 ans, l'OCP a joué un rôle tout à fait fondamental dans l'économie marocaine. Ils continuent à être des exportateurs de minerais, mais dans le cas des phosphates, il y a une certaine logique à aller vers le marché d'aval, qui est finalement la vraie commodité cotée au niveau mondial, qui est ce qu'on appelle le DAP, le diammonium phosphaté. Alors, évidemment... ceci pose un problème et ils n'ont pas pu tout faire puisque il faut dit ammonium phosphaté, ammonium, donc il faut des ressources en gaz naturel. Alors on pourrait se dire mais c'est parfait, il devrait y avoir une collaboration entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie a du gaz naturel, le Maroc a des phosphates. C'est pas exactement comme ça que ça s'est fait. Je rêve parfois pour le Maghreb qu'il fasse comme en Europe où ils avaient créé la communauté européenne du charbon et de l'acier. Pourrait-on avoir une communauté maghrébine du gaz et du phosphate ? Ça, c'est pour une autre chose. Mais
pour une autre émission. Pour une autre émission. Parce qu'on arrive au terme de du temps qui nous est imparti. Nous avons rendez-vous dans quelques secondes avec un nouveau bulletin d'information. Merci Philippe Chalmin d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Je rappelle donc que vous êtes le directeur avec Yves Gégourel du pavé annuel des matières premières qui s'appelle Cyclope, qui est publié par les éditions Economica. Merci donc à Jérémy Boucher d'avoir mis en onde cette émission et mise à l'antenne. Merci à Julien Clémenceau de cette collaboration appréciée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure,